Bienvenue dans ce nouveau numéro de Colcom à la radio. Une émission préparée par la troisième une, avec un thème principal. La vie, notre vie, pendant et après le confinement. Et en parallèle, les notions de dystopie et d'utopie. Nous avons écrit des textes, des jeux d'écriture, et nous avons même promené nos micros dans le collège pour recueillir l'avis des profs. Mais on commence avec un exposé autour de la dystopie avec le roman de science-fiction 1984.
"1984" est un roman dystopique, c'est une fiction utopique sombre, qui est gouvernée par Big Brother, et où le peuple n'a pas le droit de réfléchir, de penser, ni même d'agir comme bon leur semble. Pour cela, il y a la police de la pensée, le ministère de la vérité, le ministère de l'amour, de l'abondance. Ils sont tous là pour restreindre les libertés. Les personnages principaux sont Winston, Julia et O'Brien. Winston est le personnage principal. Il est contre les idées du parti, le parti c'est Big Brother, et il va écrire secrètement un journal intime, donc on va voyager avec lui dans le livre, avec ce journal, il nous accompagne. Il va rencontrer Julia, au début il la déteste, et ensuite il va apprendre à la connaître secrètement, et ils vont tomber amoureux, vu qu'ils vont voir qu'ils vont avoir les mêmes idées de rébellion, et ils s'entendent bien. Par la suite, ils vont découvrir O'Brien qui travaille aussi au ministère de la vérité. Winston lui fait une entière confiance. Il va donc avouer à celui-ci qu'il veut faire partie de la fraternité. C'est une sorte de rébellion. Mais bien au contraire, O'Brien ne fait pas partie de celle-là. Il va les torturer jusqu'à leur faire aimer Big Brother. Ça me fait penser aussi au régime hitlérien, de par la jeunesse hitlérienne, qui ressemble fortement aux jeunesses d'Océania. C'est les enfants du monde de Big Brother qui sont vraiment endoctrinés. Il y a beaucoup de propagande aussi dans ce monde, ce qui se rapporte également aussi beaucoup au régime hitlérien. La pensée unique est prônée et l'endoctrinement également. On va donc passer au temps 2, ce que j'ai aimé et ce qui m'a déplu dans le livre. Ce que j'ai aimé, c'est l'atmosphère. C'est vraiment une atmosphère prenante. On a envie d'aller jusqu'à la fin. Elle est vraiment très spécial aussi. On ressent, je trouve, quelque chose de très, très spécial, même indescriptible. Quand on lit ce livre, on a l'impression d'être observé même à travers les pages. Le style et le vocabulaire, ils s'y rapportent aussi, vu que c'est un vocabulaire très ancien. Et des fois, on a du mal à comprendre quelques mots. Le style est aussi très ancien. Ça se voit même dans la manière d'écrire. Il y a beaucoup plus de tournures de phrases que maintenant. Mais j'aime bien, vu qu'on apprend de nouveaux mots. Les émotions, il y a beaucoup d'émotions, même parfois trop, et l'histoire est très prenante. Donc je vous disais, quand il y a beaucoup d'émotions, c'est vraiment la torture vers la fin qui est insoutenable. Quand Winston se fait torturer avec O'Brien, c'est vraiment très 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 dur, et c'est même inhumain. J'ai détesté la torture, j'ai détesté le personnage d'O'Brien qui est inhumain, et l'endoctrinement, les moyens qu'on peut utiliser pour l'endoctrinement des gens, c'est indescriptible. Ce qui nous amène au temps 3, la présentation de mon carnet du lecteur. Mon carnet du lecteur, c'était une série de petits exercices qu'on devait faire et qu'on m'avait imposé. Si j'avais aimé le livre, ce qui m'avait plu dans le livre. Moi, j'ai décidé de le faire comme le journal intime de Winston. Donc j'ai essayé d'être fidèle à la description physique du carnet. Je l'ai personnalisé, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai passé beaucoup de temps sur l'aspect physique du carnet. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et aussi, je l'ai écrit à la première personne comme si j'étais dans la peau de Winston, comme si vraiment c'était lui qui écrivait mon journal du lecteur. Heureusement, je n'ai pas eu à me cacher pour le faire. Et donc, quand j'ai écrit mon carnet du lecteur, ça m'a amené à penser, moi, en 1984, aurais-je été dans la fraternité, donc dans la rébellion, ou dans le parti, serais-je rentré dans les clous, dans les cases, aurais-je été un enfant d'Océania. En lisant le livre, je m'identifie plus au personnage de Julia. C'est plus plaisant de s'identifier à elle, vu qu'elle a une force de caractère, elle a un esprit de rébellion et elle a une indépendance d'esprit, donc elle garde la tête sur les épaules. Et elle garde la tête froide, en fait. En fait, quand j'ai écrit mon carnet du lecteur, je me suis plus dit, j'aurais sans doute été comme un enfant d'Océania, vu qu'on est né dedans, on n'a pas d'autre père, on n'a pas de recul par rapport à la société qui nous entoure, et on est endoctriné de notre plus jeune âge.
Down, Après ce petit exposé, on va parler du confinement. Enfin, des confinements. Enfin, il y en a eu beaucoup. Nous sommes allés dans le collège pour recueillir les témoignages des profs.
Comment vous avez vécu le premier confinement ?
Très bien. Très très bien.
C'était vraiment particulier de se retrouver enfermé, mais à part ça, ça a été.
Bah, c'était très bien. J'étais comme en vacances à la campagne chez mes parents, donc dans un petit village de campagne. Donc j'ai très bien vécu le confinement. Ça m'a permis de me retrouver en famille avec mes parents et mon fils en pleine campagne et de faire des activités que je ne fais jamais, c'est-à-dire faire la cuisine. J'ai appris à faire des gâteaux à la banane. Et je me croyais pas capable de faire des gâteaux auparavant. Et en fait, je me suis découvert une passion pour les gâteaux à la banane.
Assez bien parce que je travaillais encore. Bon, après, c'était long comme tout le monde, je pense, mais sinon, ça va.
Comment vous avez vécu votre premier confinement ?
Au début, très, très, très stressé parce qu'il fallait mettre tous les élèves et tous les profs à la maison et tout organiser. Et puis après, petit à petit, la vie s'est organisée, calmée. Et donc, comme tout le monde, j'ai patienté pour pouvoir revenir au collège.
Très mal. On est coupé du monde. On n'a pas l'habitude.
Alors moi, j'ai trouvé qu'il était très difficile. Ce qui me gênait le plus dans mon confinement, et le premier, c'était justement de ne plus avoir la présence avec les élèves. J'avais l'impression de les inonder de travail et de ne pas être là pour leur donner les réponses. Et moi, du coup, j'étais vraiment très mal. Il n'y avait qu'une idée, c'était d'être là pour pouvoir les aider à continuer leur apprentissage.
J'ai très bien vécu le premier confinement. Moi, j'étais très bien chez moi en télétravail. La seule chose, c'est que c'était un peu compliqué, effectivement, pour faire travailler les élèves et garder le contact avec les élèves. Mais moi, j'ai très, très bien vécu le premier confinement.
Après les profs, c'est à nous de nous exprimer sur les confinements. Voici trois textes écrits par les élèves.
Comment j'ai vécu mon premier confinement ? Au début du confinement, je ne sortais pas du tout. Je n'ai pas mis le nez dehors pendant 3 semaines. Je me sentais seule. Je restais enfermée dans ma chambre toute la journée. Puis j'ai commencé à sortir. Et je me suis sentie libre, enfin libre. Et c'était le printemps. Il faisait beau, chaud. Il y avait des fleurs partout. J'adorais aller faire du vélo avec mon père et ma petite sœur. Et puis Macron a annoncé un mois de confinement en plus. J'en pouvais plus du confinement, de la solitude, des devoirs, du Covid. En plus, c'était l'été, il faisait beau, chaud. Mais non, je restais seule dans ma chambre.
Pendant mon premier confinement, j'ai eu beaucoup de cours en visio. Ça m'a saoulé parce que je ne pouvais pas sortir et voir mes potes. Mais j'ai appris à faire des nouvelles choses avec ma mère. Elle m'a montré comment faire du pain et des gâteaux. J'ai fait aussi de la muscu. Néanmoins, des personnes que j'aime m'ont beaucoup manqué.
Ma liste du confinement. Méditer, dormir, jouer, travailler, marcher, courir, faire des courses. Méditer, dormir, jouer, travailler, marcher, courir, faire des courses. Méditer, dormir, jouer, travailler, marcher, courir, faire des courses.
Méditer, dormir, jouer. Après la dystopie, l'atmosphère anxiogène du confinement, et si on parle un peu d'utopie. Lors de nos ateliers d'écriture, nous avons écrit des textes à propos des lieux imaginaires. Et on va commencer avec une fiction. Et si le Covid n'avait pas existé ? Et juste après, on part pour une histoire d'île recouverte d'or.
Le monde sans Covid. Je me réveille, je me prépare pour aller faire les courses. Je cherche mon masque, mais je n'en trouve pas. Par conséquent, je me rends à la pharmacie pour leur demander des masques. La pharmacienne me pose la question « Mais pourquoi faire ?» Je lui réponds tout simplement « Pour me protéger » du nouveau virus, le coronavirus. Et là, je suis surprise de sa nouvelle question. Elle me demande « Mais qu'est-ce que le coronavirus ?» À cela, je lui réponds « Le virus qui touche la Terre entière. » Et là, elle me dit qu'elle ne fait pas attention aux rumeurs. Je m'excuse et sors de la pharmacie. En sortant, je décide de passer par le parc qui est effectivement ouvert. Je m'aperçois que personne ne porte le masque pour se protéger du virus qui a déjà fait beaucoup de morts en France et dans le monde. Tout cela est impossible, oui, impossible. C'est alors que j'ai décidé de continuer à vivre, d'oublier ce cauchemar. Ainsi, j'ai fait du shopping, suis allée au salon d'esthétique, puis au restaurant avant d'aller au cinéma. Et ce n'est qu'une fois chez moi que je me suis rendu compte que tout cela n'était qu'un cauchemar et que je me retrouvais sur une île inconnue, plus que très mystérieuse.
Cela faisait déjà 5 heures que je naviguais et que je me trouvais au milieu de l'océan. Quand d'un coup, je vis au loin un petit bout de terre, mon bateau se dirigea vers cette terre. Soudain, je me souviens d'une légende qui captivait tous les enfants de mon village. Elle racontait l'histoire de trois frères marins qui voulaient découvrir l'île d'or. Malheureusement, ces trois frères ne sont jamais revenus. Mon bateau tanguait, la droite à gauche, je courais vers la barre pour me remettre le cap sur cette île quand soudain je me sentis une goutte d'eau. Cette goutte d'eau était visqueuse. Ma tête se leva et à 2 mètres au-dessus de moi, une tête de serpent géante de mer me regardait, avec des yeux globuleux, comme si elle voulait me gober. Sa gueule était entr'ouverte et bavait dessus. Dans un geste de panique, j'ai pris les rames et mes bras, ramé sans rien comprendre, mon cœur battait si fort dans ma poitrine que ma tête allait exploser. Ce serpent de mer venait de sortir du livre l'histoire que mon grand-père racontait avant d'aller se coucher. La queue d'animal sortit de l'eau et retomba sur toute la surface de mon bateau, ce qui me propulsa en l'air. Dans le ciel, un oiseau de 6 mètres à peu près m'attrapa et atterrit 4 mètres plus bas, dans le sable chaud. Mon visage recouvert de sable, je me souleva ma tête et ouvris mes yeux avant beaucoup de difficultés. Mais je ne pus les refermer tellement je ne croyais pas mes yeux.
Devant moi, une plage immense s'étendait à perte de vue. En touchant le sable, je découvris que ce n'était pas du sable mais des minuscules grains d'or. Sur le côté, il y avait la mer d'où je venais et de l'autre, une masse sombre de palmiers. Ils devaient bien faire 10 mètres de haut et leur tronc était recouvert de feuilles rouges. Je me mis debout, l'oiseau me regardait. Malgré le soleil qui m'éblouissait, je restai un moment à l'observer. Il avait un long bec très fin jaune, ses plumes brillaient de mille couleurs. Il faisait bien 6 ou 8 mètres maintenant que je pouvais l'observer. Je sortis de ma poche un petit carnet de bord. Heureusement, dans cette folie de rencontre avec le serpent, je n'avais pas perdu mon carnet où je note toutes mes idées. Et je dessine tout ce que je découvre. D'ailleurs, je ne vois plus le serpent des mers et la tempête s'est apaisée. C'est le calme autour de moi, il n'y a pas un bruit, cela me paraît très étrange. Après avoir rangé mon carnet, je décide d'aller du côté de la forêt de palmiers. Je vais donc explorer cette île d'or.
Avant d'écouter la prochaine histoire, retournons dans les couloirs du collège. On a demandé au prof ce que sera le monde dans 100 ans, et juste après, ce sera à notre tour de répondre.
Comment vous voyez le monde dans 100 ans ?
Je ne sais pas, je serai mort.
Je ne sais pas, j'espère que mieux en tout cas.
C'est difficile à répondre avec l'émergence des nouvelles technologies. Il y aura de plus en plus le travail ce sera sur ordinateur, sur internet, les gens ne se parleront plus. Il n'y aura plus du tout de communication entre les humains. Les gens communiqueront grâce à Internet, grâce au portable, au visio, comme il n'y aura plus du tout de communication entre les gens.
Très futuriste. Les voitures qui volent, les grands gratte-ciel partout, puis des robots partout.
Mais dans 100 ans, vu comment ça se déroule, à mon avis, ça ne va pas être très joyeux.
Dans 100 ans, j'espère qu'on aura fait de gros progrès sur la préservation de la planète, déjà. Pour que dans 100 ans, on ait beaucoup moins de soucis. Et puis, qu'il y aura moins de guerre et plus de paix.
Pas très bien, vu que je trouve qu'il y a beaucoup de laisser aller. Donc, il serait temps de se retabler sur les bases.
Alors, comment je vois le monde dans 100 ans ? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y aura des navettes qu'on pourra aller dans l'espace. Ce serait quand même... c'est un peu ça. Et puis, j'espère que je serai encore là pour le voir, surtout. Peut-être qu'avec les progrès de la science et de la médecine, je vais peut-être pouvoir être encore là en super forme.
Le monde, dans 100 ans, je l'imagine très modifié. Déjà, il y a notre réchauffement climatique qui sera encore plus important. Donc, une montée des eaux, une nouvelle carte du monde, une nouvelle façon de vivre avec un habitat plus sur l'eau. Avec une réorganisation de la vie en commun et vraiment des gens qui devront s'adapter et peut-être prendre et mettre en place ce qu'on a mis en place là et continuer à le développer un peu plus.
Il aura évolué, c'est sûr. Maintenant, j'espère qu'il évoluera en bien, qu'on essaiera justement de réduire ce réchauffement climatique, essayer de trouver de nouvelles technologies pour limiter l'impact de l'homme sur la planète. Et dans 100 ans, de manière pessimiste, j'ai envie de dire que nos enfants seront très pas bien. Le nombre de maladies aura probablement augmenté. Enfin voilà. Mais on va rester optimiste et on va dire que dans 100 ans, on aura déjà fait plein de choses et qui auront changé le monde en bien.
Dans 100 ans, je vois le monde avec une troisième guerre mondiale. Je vois la Terre exploser à cause de bombes nucléaires et la vie humaine n'existe plus. Je pense aussi que la vie reprendra sur une autre planète.
Dans 100 ans, je vois le monde sans Covid, un monde libre, avec des voitures volantes et des trains volants.
Dans 100 ans, je vois le monde comme digital, où il y a des immeubles de 15 km de haut. Tout le monde aura accès à Internet et ce sera un monde plus vert.
Allez, encore une histoire d'utopie, avec une île de rêve.
Après quelques jours de road trip aux États-Unis, nous avons décidé de faire une croisière luxueuse pour aller à Hawaï. Une tempête apocalyptique nous prit de court. Notre embarcation s'échoua sur une île plantée au milieu de nulle part et une mer turquoise. À quelques mètres de la plage, nous apercevons des maisons flottantes construites avec des matériaux naturels comme le bambou, la paille. Ces habitations semblent idéales. Nous prîmes la décision de nous aventurer cette île étonnante, inconnue des cartographes. Aucune âme qui y vive. Nous foulons une végétation luxuriante qui habite des animaux exotiques, une jungle en quelque sorte, mais accueillante et rassurante. Au plus nous avançons sur ce territoire incroyable, au plus nous découvrons des choses inattendues. C'est presque irréel. Et bientôt, nous voici face au terrain de foot. Notre visite nous laisse entrevoir des merveilles comme un hôtel qui semble luxueux, un parc d'attractions avec des trampolines géants, des bowling extérieurs et des boutiques gratuites. Nous n'en croyons pas nos yeux. C'est le paradis et nous comptons bien y passer une partie de notre vie.
À présent, un autre travail d'écriture. Il fallait imaginer à deux voix ce que sera la vie après la crise sanitaire.
La vie après la crise sanitaire.
On va retrouver les gens qu'on aime.
Se réunir.
Retourner au restaurant.
Aller en vacances.
Retrouver l'agitation des villes.
Se promener librement.
Respirer et ôter le masque.
Être confiant.
Ne plus avoir peur, ne plus craindre la maladie.
Se sentir libre.
Retourner au concert.
Aller au théâtre.
Avoir des projets.
Retrouver notre joie de vivre.
Embrasser ses grands-parents.
Se sentir léger.
Profiter de chaque instant.
Pouvoir aller à l'école chaque jour.
Ne plus jamais utiliser les mots distanciation sociale, confinement, déconfinement, reconfinement, gestes barrières, cas contact et Covid-19.
Et voilà une ronde de lecture pour terminer cette émission. Une ronde de lecture sous forme d'anaphore, tantôt drôle, tantôt surréaliste, tantôt terre à terre, qui commence par « Ma vie rêvée ». Merci d'avoir écouté Colcom à la radio, à très bientôt.
Ma vie rêvée, c'est d'être Wonder Woman.
Ma vie rêvée, c'est d'avoir des amis martiens.
Ma vie rêvée, c'est de parler la langue des animaux.
Ma vie rêvée, c'est d'avoir une vie de rêve.
Ma vie rêvée, c'est d'être un pingouin.
Ma vie rêvée, c'est de me marier avec Will Poulter.
Ma vie rêvée, c'est de nager avec un poisson.
Ma vie rêvée, c'est de fonder une grande famille heureuse.
Ma vie rêvée, c'est d'être actrice.
Ma vie rêvée, c'est de vivre ma best life au lycée.
Ma vie rêvée, c'est de faire comme dans les pubs de savon, me laver au milieu d'un champ de fleurs blanches.
Ma vie rêvée, c'est de lire des Demon Slayer toute la journée.
Ma vie rêvée, c'est de devenir original.
Ma vie rêvée, c'est de manger des hamburgers à tous les repas.
Ma vie rêvée, c'est de partir dans une autre galaxie.
Ma vie rêvée, c'est de pouvoir vivre éternellement.
Ma vie rêvée, c'est d'avoir des enfants.
Ma vie rêvée, c'est d'avoir beaucoup d'argent.
Ma vie rêvée, c'est de voler.
Ma vie rêvée, c'est d'arrêter l'école.
Ma vie rêvée, c'est de rencontrer des extraterrestres.
Ma vie rêvée, c'est de voyager toute l'année.
Ma vie rêvée, c'est de dormir toute la journée.
Ma vie rêvée est d'avoir des nouvelles chaussures qui me permettent de me téléporter.
Ma vie rêvée, c'est de sauter à l'élastique.
Ma vie rêvée, c'est de faire du basket sur la lune.
Ma vie rêvée, c'est de secouer l'univers.
Ma vie rêvée, c'est de faire le tour de la Terre.
Ma vie rêvée, c'est de grimper dans les arbres d'Amazonie.
Ma vie rêvée, c'est de courir sur le sable du Sahara.
Ma vie rêvée, c'est de traverser l'Atlantique à la nage.
Ma vie rêvée, c'est de toucher le soleil.
Ma vie rêvée, c'est de faire tout ça avant de mourir.
Ma vie rêvée, c'est d'être millionnaire.
Ma vie rêvée, c'est d'avoir des super pouvoirs.
Ma vie rêvée, c'est sans le Covid.